Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous.
Alors, je crois que sur ce chemin d'excellence dont j'ai parlé, il y a des passages délicats où la fragilité humaine, cette fragilité à laquelle je faisais allusion tout à l'heure en parlant des exemples bibliques et de la mythologie grecque, on les a, elles existent, et je crois qu'il est bon de les rappeler pour préparer les entraîneurs à leur tâche. La première fragilité, pour moi, c'est celle, en fait, de la relation interpersonnelle. Je pense que nous ne communiquons pas toujours aussi bien qu'on devrait le faire. On sait qu'il y a un paradoxe entre le fait que atteindre un but aujourd'hui, c'est le faire en équipe. On n'est plus assez fort individuellement pour faire tout seul. Aujourd'hui, il faut compter sur des forces complémentaires pour pouvoir réaliser quelque chose. Donc, et d'autre part, paradoxalement, justement, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus devant notre écran, seul, on travaille à domicile, etc., alors que c'est en équipe qu'on atteint, en fait, un résultat d'équipe. Donc, en fait, c'est un des points sur lequel je travaille, sur le profil, la personnalité, savoir qui suis-je, avant de connaître les autres, pour voir où sont mes besoins de complémentarité, qu'est-ce qu'il me manque pour être bon. Et si on fonctionne comme ça, on arrive à créer en fait une équipe avec un pouvoir de, je dirais, où la somme des composantes est supérieure au nombre de composants, où deux et deux font cinq en fait, où on profite véritablement, où il n'y a pas de querelle de prestige, de personnel, etc., comme c'est souvent le cas actuellement. Donc ça, je travaille sur les profils de personnalité et sur le profil motivationnel des gens, en particulier sur un profil qu'on appelle le profil de Rice, qui est le nom du psychologue américain qui a développé un des rares profils qui parle des motivations de l'humain. Donc ça, je veux pas m'allonger sur ce cas, mais c'est un domaine où, par exemple, la formation des entraîneurs en Suisse a fait un grand effort ces dernières années. Et moi, je vous le dis, je le sens dans les entraîneurs. On a des personnes qui sont meilleures, je pense, qui ont confiance en elles, parce qu'elles savent qui elles sont et qui se donnent la peine aussi de découvrir et de savoir qui sont les autres qui travaillent avec eux. Donc ça, c'est une chose extrêmement positive. Maintenant, la deuxième chose, c'est la fragilité dans le développement des capacités technico-tactiques, physiques, mentales, émotionnelles. C'est justement cette approche holistique. J'ai le sentiment qu'on est des technocrates. Qu'on est des technocrates parce qu'on sait des choses, on pense savoir les faire, on pense pouvoir les faire, simplement parce qu'on sait. Mais le savoir-faire s'apprend, s'expérimente, et c'est souvent par tâtons, par découvertes, mais aussi par erreurs qu'on apprend. Donc je pense que ce côté-là, c'est en fait stresser des gens, toujours. Nous sommes des stresseurs, entraîneurs. Il faut stresser les gens, justement, dans tous les domaines. Essayer de faire en sorte, par exemple, qu'un entraînement de lancer du poids, Si je prends l'examen du le travail du lanceur de poids, le lancer, quand j'entraîne mon athlète qui lance dans son secteur de 35 degrés, eh bien, il fait de la technique. Mais en même temps, il fait du physique. Et ce physique, je peux l'influencer selon que je lui fais lancer des engins plus lourds, plus légers, pour travailler la vitesse ou la force spécifique. Je peux travailler plus longtemps, je peux travailler moins longtemps, j'ai mille façons de renforcer l'aspect physique dans le travail technique ou par le travail technique. Et là, j'ai fait de la technique et du physique. Mais on parle toujours de technique et de physique alors que tous les moments importants dans nos vies et aussi dans notre travail, c'est de vendre un objet, de vendre une maison, de gagner un challenge, de construire quelque chose. Il y a une réalité, il y a un travail pratique où les problèmes mentaux et émotionnels vont jouer un rôle capital. C'est le jour J, c'est l'heure H. Donc à ce moment-là, interviennent ces autres facteurs. Et d'entraîner des facteurs confortablement à l'entraînement et pouvoir les reproduire en compétition à la puissance X, ça, c'est souvent impossible. Donc, pour moi, un entraînement de technique, si je prends maintenant Valérie dans son cercle, je vais pas lui dire « lance dans ce secteur de 35 degrés ». Je vais lui dire « la concentration est le facteur mental le plus important, la visualisation tout autant puisque tu pars dos tourné au lancer, je te mets un pneu dans l'axe du lancer à 20 mètres ou 19 mètres ou 18 mètres selon le poids que je vais lui faire projeter. Et puis je lui dis, maintenant, tu lances dans le pneu. Et là, alors, le faisceau se referme. Et je me concentre davantage pour arriver à faire ça. Donc vous améliorez, vous faites un travail mental supplémentaire qu'un seul travail technique où vous lancez une fois à droite, une fois à gauche, une fois au milieu, ils sont chaque fois dans le secteur. Donc ça, c'est une des clés. Et là, j'additionne encore un travail émotionnel en lui demandant de réussir un certain nombre de jets, par exemple 8 sur 10. Sinon, il recommence chaque fois toute la série. Donc il y a une punition. Alors c'est d'entente avec lui, hein, ça c'est. Ou alors je le mets en stress. Je lui donne une tâche plus difficile à faire, plus stressante à faire dans la concurrence, par exemple. Si j'ai son copain qui lance un mètre de moins, je vais lui dire, si t'as plus qu'un mètre, tu t'as gagné. Si t'as moins qu'un mètre, tu perds. Ou un truc comme ça. Et là, j'ai conjointement toujours le travail technique, physique, mental, émotionnel, qui joue en même temps. Et quand on parle de stress, parce que c'est bien de ça qu'on parle dans le sport, on stresse nos gens, on les sort du confort, on les sort de ce fameux canal du flow dont parlait Mihan Sali pour la théorie du bonheur, qui dit on est bien lorsqu'il y a une harmonie entre son niveau de compétence et son niveau d'exigence. On est dans le flow. Et au moment où il y a un décalage, c'est-à-dire où l'exigence est supérieure à la compétence, on est stressé. On sait pas. On a peur, on a du souci. Et nous, entraîneurs, on sait qu'on doit les faire sortir pour les faire monter dans le flow. Parce que je peux pas monter dans le flow, dans la bisectrice, là je peux pas monter à l'intérieur du flow parce que je saurais déjà le faire. Je suis dedans. Donc il faut sortir, prendre une balle de plus comme jongleur, et puis trouver la méthode, la technique pour l'introduire, et se stabiliser à un niveau plus haut, et monter en escalier, en fait. C'est ça, notre travail. Et de trouver les limites entre le bon et le mauvais stress. Le stress qui vous excite, qui vous stimule, et puis le mauvais stress, qui est le distress, qui vous détruit. C'est-à-dire ce qui vous mène au burn-out, le trop. Donc ça, c'est cette tâche qui est extraordinaire. Et j'en veux, et une chose qui m'a passionné, c'est un ouvrage de Nassim Nicolas Taleb, qui parlait de l'antifragilité. Et il dit, L'antifragilité est une propriété des systèmes qui se renforcent lorsqu'ils sont exposés à des facteurs de stress, des chocs, de la volatilité, du bruit, des erreurs, des fautes, des attaques et des échecs. Il aurait dit la guerre, c'était presque ça. Hein. C'est fou, on est dans une période un peu tragique aujourd'hui, à mon avis. Eh bien, il dit qu'en fait, le fragile, c'est celui qui craint les événements inattendus. Donc, il va pas se lancer. Il sait, je suis pas à la hauteur, je peux pas. Le robuste, c'est ce qui est indifférent aux événements inattendus. Donc, il résiste seulement. Mais il dit que l'antifragile, c'est ce qui profite des événements inattendus. Donc, ça veut dire que, à l'extrême, à des stress extrêmes, on apprend. Il y a un plus.
Ça fait penser à la pliométrie. C'est-à-dire, t'encaisses pour restituer, au final.
T'encaisses pour restituer. On peut dire ça comme ça, ouais. Je sais pas si, mais oui, en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et encaisser, après, il faut savoir encaisser. Parce que quand on parle comme ça, pour certaines personnes, on est des brutes. On est des brutes. Mais n'empêche que je pense que sportif d'élite, dans le fond, en lisant Taleb, je me suis dit, mais le sportif d'élite, il est pas loin de ça. Et est-ce qu'on fait comme erreur? Qu'est-ce qu'on fait accident quelquefois, des fautes, des échecs, des fois cuisants. On passe par des moments de doute, des moments des crises, etc. Mais en général, quand on sort, on est vraiment plus fort. On a appris quelque chose. Donc ça, c'est la deuxième, le deuxième type de fragilité que je voulais donner. Et cette approche holistique qui me paraît importante d'adopter et qui manque dans beaucoup de domaines. Je le vois dans le domaine médical aussi, en parlant avec les médecins. Il y a plus assez de travail interdisciplinaire entre eux. Ça manque nettement, et ils le disent. Honnêtement, ils le disent. On est parti tellement dans le spécifique, dans l'analytique, qu'on ne voit plus, en fait, les événements de façon globale. Ça, c'est une chose. Et la dernière, quand même, la dernière, c'est naturellement le management d'énergie. Là, on s'est cassé la gueule. Hein. On s'est cassé la gueule parce que, dans le fond, j'ai pris cet exemple hier. On était plutôt des marathoniens et aujourd'hui, on est plutôt des sprinteurs. Donc, la vie, c'est plusieurs sprints plutôt qu'un marathon. Ça veut dire en fait que on travaillait plus dans la durée, on travaillait tout autant d'heures, sinon plus hier, mais à un niveau d'intensité inférieur. Aujourd'hui, le niveau d'intensité est devenu tel, la vitesse a augmenté, les exigences ont augmenté et tout. Et cette montée d'intensité a obligé de venir à un travail intermittent. Ce qu'on a su faire en sport, mais ce que le monde de l'entreprise n'a pas su faire. Et le burn-out est né de ce changement que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu cette génération d'après-guerre. Je suis né pendant la guerre encore. Donc, où le monde se reconstruit, mais gentiment, où on repart presque à zéro. Et même si on n'avait pas grand-chose à reconstruire, nous, en Suisse, par rapport à notre pays qui était démoli, on reconstruit, on repart. Ce travail intermittent est devenu indispensable pour pouvoir récupérer des efforts qu'on fait. Un effort, c'est peut-être pour un sprinter 10 secondes d'une course, pour un footballeur. Le football est un domaine très intéressant qui a été aussi étudié comme d'autres sports, où on a dit, à l'époque, on jouait plus lentement au football. On est d'accord. Le football d'hier, c'est un football qui est tout aussi technique, tactique, etc., mais plus lent qu'aujourd'hui. Le temps de jeu n'a pas changé. Les règles sont pratiquement les mêmes, mais ce qui a changé, visiblement, c'est l'intensité, c'est la vitesse de jeu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour changer? Eh bien, on a changé l'entraînement. C'est-à-dire, on a remplacé les tours de terrain qu'on pratiquait jadis par de travail intermittent, où on a dit, on va faire des pics efforts, entrecoupés de temps de récupération active ou passive, et ces temps d'efforts, eh bien, c'est quoi? C'est la force, la puissance et la vitesse. C'est la force, charge, c'est la détente, puissance, et c'est la vitesse. La vitesse spécifique ou la vitesse maximale de course, si on veut, c'est ça. Et puis, on a entraîné les gens comme ça. On a fait, par exemple, en football, deux actions rapides en une minute. Donc, toutes les 30 secondes, à peu près, 20 à 30 secondes, une action de 5, 6 secondes, et puis après, entrecoupée d'un temps de replacement, etc. Et on a réussi à meubler ces 90 minutes de jeu, 2 x 45 minutes, de façon spécifique à l'activité, et non plus un rythme qui est un rythme de croisière, qui est un rythme qui est ni la récupération ni la performance, mais simplement qui dure parce qu'il est pas trop rapide. Donc là, on a appris, et aujourd'hui, toute la planification et la périodisation de l'entraînement doit se faire sur cette base de haut ou de bas. Il y a travail, engagement et récupération. Et dans la récupération, il n'y a pas seulement l'activité, dans l'effort, pardon, il n'y a pas seulement l'activité physique, il y a les préoccupations, il y a tout son investissement. Dans la récupération, il n'y a pas seulement le stretching et tout, mais il y a la nutrition, il y a le sommeil. Se reposer, etc. Et c'est la réorganisation de ce système entre le travail dans la durée et dans l'intermittent, ou l'intervalle ou l'intermittent, qu'on doit revoir. Et la revoir comment? Eh bien, le plus naturellement. Surfer sur la vague du naturel, c'est mon slogan. Et qu'est-ce que le naturel? Biologiquement, c'est le jour et la nuit. On peut pas travailler nuit et jour. C'est vite vu. Il faut donc soigner et la journée et la nuit, pour que la passer dans les meilleures conditions. Le deuxième rythme biologique, c'est le cycle lunaire, c'est les menstruations, la femme par exemple. C'est 28 jours, hein. 28 jours, on peut aussi dire c'est en 3 et 5 semaines, et ça correspond au mésocycle de l'entraîneur donc quand j'entraîne quelqu'un sur un mois, je viens faire en sorte qu'il y ait pratiquement une semaine dans le mois où le travail est diminué fortement pour récupérer. Et on sait, la femme nous donne un exemple magnifique, parce que si elle vit son cycle, en général, elle sait exactement quand son corps a plus de peine à fonctionner. Et elles aiment pas quand on le dit, des fois, parce que je les comprends, mais il faut quand même parler en clair. Je les comprends. J'ai une femme, une fois, qui s'est vraiment révoltée dans un de mes séminaires, qui m'a vraiment contré, dur, hein. Dur, quand j'ai dit ça. Alors, vous voulez dire que les femmes sont pas capables de travailler un mois, vous n'avez pas de faiblesse. J'ai pas dit que nous n'avons pas de faiblesse. J'ai dit que vous, heureusement, nous donnez la certitude des signaux qui font la fatigue. Nous, on les a aussi, mais c'est pas réglé dans un cycle biologique clair, c'est-à-dire avec une menstruation, un saignement, mais vous les vivez vraiment à fond. Et si vous êtes capable de nous dire tous les combien de temps ça intervient, cette fragilité momentanée, ou cette disponibilité peut-être moins grande, pendant laquelle on a meilleur temps de faire plus de récupération que d'efforts, eh bien, tant mieux pour tout le monde. Et moi, j'ai travaillé avec des hommes plus qu'avec des femmes au départ, sur ce cycle, en fait, que j'ai raccourci avec Werner, parce qu'après 3 semaines de travail progressif, c'était presque trop. Parce qu'on est vraiment dans l'intensif, hein. Oui. Comme lanceur, c'est tout ce qu'on fait, c'est pratiquement intensif. Donc, c'est clair qu'on est plus vite fatigué. Donc, pour moi, la troisième semaine devenait plutôt la semaine de récupération. Où on fait à peu près, grosso modo, la moitié, au point de vue volume, de ce qu'on fait les semaines d'avant. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, c'est ce respect. Si je dis surfer sur la vague du naturel, c'est respecter ces deux cycles naturels. Si vraiment vous avez un concept de préparation où vous dites systématiquement, on a un travail, par exemple, si je vous donne dans la semaine, deux entraînements le lundi, deux entraînements le mardi, un entraînement le mercredi, permet déjà d'avoir un travail de récupération le mercredi, massage, sauna, etc., etc. Jeudi 2, vendredi 2, samedi 1 et dimanche rien. Et là, on a un rythme, une vague régulière, et en respectant cette vague, vous arrivez à surfer sur la grande vague quand elle arrive. Vous serez surpris sur la grande vague aussi. Mais si vous êtes sans arrêt chahuté, tout le temps chahuté, eh bien, au jour J, la plupart du temps, vous le serez aussi. Mais négativement. Et ça, c'est pour moi le jeu de l'échec de l'entraîneur. C'est justement d'imprimer un rythme à l'athlète qui soit viable. C'est dans le mot rythme, il y a une chose qui est extraordinaire. C'est quand on dit j'ai trouvé mon rythme, ça veut dire j'ai trouvé mon rythme économique. C'est facile. Il y a une facilité de travailler en rythme par rapport à un travail acyclique. Donc, pour moi, le rythme est de toute façon un facteur de coordination très important, qu'on le veuille ou non, l'équilibre. L'équilibre, au départ, et vous savez, c'est comme dire équilibre. Pourquoi c'est important, l'équilibre? Parce qu'il vous permet de partir dans toutes les directions. Vous ne serez jamais feinté si vous êtes en équilibre au départ d'une action. Vous pouvez l'être que si vous êtes en perte d'équilibre, parce que vous tombez que d'un côté, et c'est pas forcément le bon. Donc voilà, voilà un peu les domaines qui sont importants. Et vous savez, ce rythme, ce management de l'énergie, il s'inscrit dans la life balance, qui n'est plus la work life balance, parce que en fait, très souvent, quand vous demandez à quelqu'un quel est l'important dans ta vie, il dit c'est ma famille et mon boulot. C'est une bicyclette. Puis il est où, lui? Il est où? Il est partout. Mais il est aussi unique. Il est dans le jeu. Si je prends un tricycle, c'est la roue avant. Et la roue avant, c'est quoi? C'est la roue motrice. Je dois avoir la force, la résistance pour continuer de pédaler, même si j'ai les pneus crevés derrière. Et puis le guidon, c'est la lucidité pour conduire ce véhicule, c'est-à-dire ma vie. Donc chacun, on est sur un tricycle, et puis on essaye de développer à la fois sa force physique, psychique, psychologique, mentale, au même titre qu'on a une attention pour sa famille et son employeur. Puis à ce moment-là, on est vraiment en équilibre dans ces trois piliers de la life balance. Je crois que c'est ça. Et c'est un des points aujourd'hui les plus responsables, je dirais, des burn-out. De cette maladie terrible. Tu es français, moi je suis suisse, dans les deux pays, on n'a rien à s'envier. Ce côté-là, parce que le nombre d'anxiolytiques qui se vendent en pharmacie, c'est tragique. C'est vraiment tragique. C'était pas le cas il y a 50 ans encore. Et on était en pleine guerre. Enfin, il y avait plus de stress, etc. Mais donc, je crois que ce sont les domaines aujourd'hui qui sont les plus fréquemment cités comme étant les moments fragiles où les gens sont fragilisés et auxquels il faut attacher une importance capitale. Voilà un peu ce que je voulais dire sur cette fragilité et anti-fragilité. Préparer les gens à s'armer contre la fragilité, contre ce qui peut les déstabiliser, plutôt que entrer dans le jeu de les rendre, de leur accorder tous les privilèges qui vont les affaiblir finalement. puisque le stress, c'est dans le stress, souvent des situations extrêmes, qu'on devient plus fort.
Parfait. Top. Merci Jean-Pierre.
Plaisir.
Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.